n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Caméra Subjective, l'émission qui s'intéresse au 7e art sous tous ses angles. Un mercredi sur deux, à 19h, ensemble, nous parlons cinéma sur Radio G. Avec moi en studio, pour vous accompagner en direct, une équipe de choc derrière les micros, la brillante Margot.
Merci et bonjour à toutes et tous.
La souriante Claire.
Bonjour, bonjour Sandra.
La lumineuse Cécile.
Bonsoir.
Et pour la première fois aux manettes de la technique, la pétillante Lisa.
Bonsoir.
Au sommaire de ce soir, une expérience de spectatrice partagée par Claire et une chronique sur un film de Ken Loach présenté par Margot. Mais tout de suite, le portrait d'une comédienne et réalisatrice. Cécile, tu étais en tant que comédienne sur le tournage du film « Tout ce qu'il me reste de la Révolution » en 2019 et tu y as rencontré Judith Davis.
Oui Sandra, effectivement ce soir dans ma chronique, je vais vous parler de la comédienne et réalisatrice Judith Davis. Judith, je l'ai rencontrée sur le tournage de son premier long métrage en tant que réalisatrice « Tout ce qui me reste de la Révolution ». Elle avait besoin de comédiens et pour la scène d'anniversaire du fils de sa sœur de fiction, Mélanie Bestel, je me suis retrouvée en invitée entre ses amis, la comédienne Émilie Lafarge et la réalisatrice Cathy Vernet. Dans cette ambiance de bande de potes, se jouait une scène importante du film où Angèle, le personnage de Judith, explose de colère contre les valeurs bourgeoises.
Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac ?
Moi, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance.
Ça ! Tu as adopté le style de la maison ? Hein ? Je retourne ma veste ! Et voilà !
Angèle, on se détend là.
Virée du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing.
Judith Davis tourne assez vite pour le cinéma. Je l'ai découvert en 2007 dans Jacoule croquant de Laurent Boutonnat avec Gaspard Ulliel. Puis en 2009, elle obtient le rôle principal dans Je te mangerai de Sophie Laloy aux côtés d'Izide Lebesco. On la retrouve dans Trois souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin en 2015 et dans la mini-série Virage Nord de Virginie Sauveur en 2021. Judith, c'est aussi la cofondatrice en 2007 du collectif L'Avantage du Doute avec Claire Dumas. Les deux comédiennes sont aux côtés de Mélanie Bestel, Nadir Legrand et Simon Bacouche. Les spectacles de L'Avantage du Doute sont le fruit d'une écriture collective et sans metteur en scène. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'en 2008, la pièce du presque même nom « Tout ce qui me reste de la Révolution, c'est Simon » est née au Théâtre de la Bastille et donnera naissance au film. Cette pièce met en scène l'héritage de 68 et la question de l'engagement militant. Une dizaine d'années plus tard, le film, qui n'est pas une adaptation du spectacle, en prolonge l'esprit. Donc ce film, c'est un film à la première personne où Angèle est le double de fiction de Judith. Trop proche d'elle, finalement, son personnage ne peut pas être interprété par une autre comédienne. Et Judith raconte avec humour et passion la quête utopique d'Angèle. Le personnage d'Angèle est tellement à fond que son engagement devient maladroit et touchant. Avec sa fougue et sa générosité, elle n'abdique jamais. Que lui reste-t-il de la Révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Aux côtés de Malik Zidi dans le rôle de Saïd. Et c'est avec des fleurs pour Judith qu'il est arrivé sur le plateau le dernier jour de tournage. Une émotion intense s'est dégagée pour ce clap de fin, malgré la fatigue accumulée des semaines de tournage. Chez Judith, qui a su fédérer autour d'elle une équipe, porter un projet et surtout y croire sans relâche jusqu'au bout, il y a une part d'Angèle. Elle-même est issue d'une famille de militants où la politique était au centre des conversations, de la vie, du quotidien. La famille et l'amour passaient au second plan. Judith a grandi avec le complexe et la mélancolie de ne pas pouvoir régler tous les problèmes écologico-socio-économiques. Mais elle a choisi la légèreté et l'humour pour poser les questions dans son film. Car pour elle, c'est important de rire ensemble de ce qui nous aliène. Judith Davis, elle ne rentre dans aucune case. C'est d'ailleurs ce qui lui plaît et ce qui nous séduit. Pourtant, pour réaliser un film, lorsqu'on n'entre pas dans les cases, ce n'est pas toujours facile. Les portes se ferment. Mais qu'importe pour Judith, ce ne sont pas quelques obstacles qui la stopperont. Tout ce qu'il me reste de la Révolution ne devait pas vivre. Elle a essuyé de nombreux refus avant de rencontrer les producteurs Patrick Sobelman et Marine Arrighi de Casanova. Et c'est grâce à une véritable chaîne humaine autour de son projet que tout ce qu'il me reste de la Révolution voit le jour. Ses amis, les amis de ses amis, sa famille se retrouvent sur les postes des équipes techniques et de comédiens. Les décors ont été prêtés, sa mère fait la cuisine. Nous connaissons le résultat, le film sorti en février 2019, qui a reçu le Valois du jury au Festival du film francophone d'Angoulême. Je laisserai le mot de la fin à Judith, parce que le regard qu'elle porte sur la société à travers son film, c'est quand même elle qui en parle le mieux, et c'est comme ça qu'on l'aime, Judith.
Simplement de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces normes de management et puis l'état dans lequel les gens sont, en fait. C'est-à-dire ceux qui appliquent l'injustice et ceux qui la subissent, puisque c'est un système qui fabrique de la servitude volontaire et où les bourreaux sont les victimes et vice-versa. Enfin, c'est ça, en fait. C'est juste quand on arrive à démontrer ça, on arrive à peut-être rêver, faire prendre conscience surtout qu'il y a peut-être une classe commune. Et évidemment, après, une classe commune, ou en tout cas, rappeler que quand on fait ça, on casse les chaînes de solidarité, donc on casse la conscience de classe. Mais ça, il faut l'expliquer avec des mots. Et comme les mots, ils sont récupérés, vendus et compagnie, groupe de parole. Enfin, bon, bref.
Allez, je lui reprends le mot de la fin pour ajouter qu'on a pu voir dans le cadre du festival Circuit Court à Montreuil en septembre, Va dans les bois, un moyen métrage de 40 minutes, donc réalisé par Judith Davis et commandé par l'école de la comédie de Saint-Étienne et de l'école de cinéma La Cinéfabrique, où elle donne aussi des cours. Pour info aussi, la dernière création Encore plus, partout, tout le temps, du collectif L'Avantage du doute, est en tournée actuellement et jusqu'en 2023. Pendant 2023, vous avez des dates que vous pouvez retrouver sur le site du collectif de l'Avantage du doute. Ce spectacle répond, comme toujours, au même impératif, partir du monde d'aujourd'hui pour en faire du théâtre. Le collectif s'inquiète ici de l'état du monde et de l'humanité. En ce qui concerne l'actualité cinématographique de Judith, elle est en écriture de son deuxième long métrage, L'Asile, toujours produit par Agathe Film et Apsara Film. Et je vous invite à voir ou à revoir tout ce qu'il me reste de la Révolution de et avec Judith Davis en DVD ou en VOD.
Merci Cécile pour ce portrait et l'actualité de la comédienne Judith Davis. Vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir le film Tout ce qu'il me reste de la Révolution en VOD. Claire, tu nous proposes à présent une chronique qui porte sur des souvenirs de spectatrices et spectateurs.
Oui, merci Sandra. Pour cette chronique, j'ai rencontré Chloé. Elle nous raconte l'histoire singulière qui la lie à un film de Ken Loach, Sorry We Missed You, sorti en 2019. Dans son récit, vous découvrirez que le cinéma a des pouvoirs insoupçonnés. Vous vous en doutiez, mais à quel point ?
Moi, je m'appelle Chloé. Il y a 3 ans, je me retrouve chez une copine. Je suis à 10 jours du terme, j'étais enceinte, je suis à 10 jours du terme. Et donc voilà, on sait qu'on se retrouve toutes un peu, sûrement la dernière fois, tu vois, avant qu'il y ait une troisième personne avec nous et tout. Donc on se fait un petit brief de « alors t'en es où, qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça. « Ok, bah qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ?» Là tout le monde me disait « dors ». Et j'ai une copine qui m'a dit « non, dors pas, va au cinéma ». J'étais là « ah bon, mais je vais... » pas si souvent que ça au cinéma, tu vois, j'habitais à la campagne et tout. Elle me dit, bah justement, là, on est à Angers et tout, va au cinéma. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, là, on sort les téléphones, je regarde c'est quoi la prochaine séance, enfin, une séance qu'on peut voir ce soir, tu vois, parce qu'il était déjà, je sais pas, 8h, tu vois. Et puis on se rend compte que une demi-heure plus tard, il y a le dernier Kaalnote qui passe. Et donc on se dit ok, il y a moyen. Et puis là je me dis ah là, attends. En fait, une fois qu'on a pris la voiture, on devait prendre un peu la voiture, on était quartier vers la rue Saint-Léonard, tout ça à Angers. Une fois qu'on est dans la voiture, je dis attends, on va crever la dalle. Il faut, vas-y viens, on se gare place Saint-Bac. Et comme ça on prend un truc vite fait, il y avait un fast-food vegan qui était en bas de la place Saint-Bac à ce moment-là, ça s'appelait Copper Branch, ça fermait maintenant. Je dis vas-y, comme ça on se gare place Saint-Bac. Comme ça, on chope un truc vite fait à manger et bon, voilà. Donc j'étais avec Alex. Alex, il me dit, c'est chaud timing, peut-être on va rater les bandes annonces. Ce qui pour moi est quand même la moitié de la séance de perdu, c'est de rater les bandes annonces. Mais je dis, c'est peut-être la dernière séance que je vais voir avant très longtemps, donc vas-y, c'est pas grave, on le fait. On s'arrête à Copper Branch, on prend à manger et la meuf met 20 minutes à me préparer mon truc falafel, je sais pas quoi. Donc là, je commence à vraiment m'énerver et tout, bref. On court. Je suis à une semaine de mon terme. Je cours jusqu'au 400 coups de la place Saint-Bac, tu vois. Et là, arrive ce qui doit arriver. Et donc, le film commence. Et je suis trop contente de voir le dernier Kaalnote. Franchement, il n'y a jamais eu vraiment de déception. Je ne les ai pas tous vus, mais j'ai l'impression de retrouver un vieux pote, tu vois, un peu de la génération de mes parents. J'ai l'impression de retrouver un des copains bien militants de mes parents. Où je trouve qu'il n'y a pas tant à l'ancienne que ça. Je trouve qu'il y a quand même plein de trucs. Je sais pas, je me rappelle La Part des Anges. Je me souviens de quelques films comme ça où je me dis, ah quand même, hein, il a vu des trucs, quoi, juste avant que ça devienne une évidence pour plein de gens, et il avait quand même capté 2-3 trucs, quoi. Donc je suis trop contente d'aller voir le Kaalnote. Le film commence et tout ça. On sent assez vite que ça va pas être le truc super fun. Mais bon, c'est rarement le cas, hein, chez Kaalnote. Enfin. Et. À un moment, je me dis, putain, quand même, c'est chaud, j'ai quand même vraiment des contractions, là, quand même. Et je dirais, à partir de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure du film, je suis contente, je suis émue et tout ça, j'ai couru, je suis encore un peu essoufflée, je me dis que ça fait longtemps que je suis essoufflée, ça fait bien longtemps que je suis assise et pourtant je suis encore essoufflée. Et je me mets à compter les contractions, à compter les temps entre les contractions. Et là, je me rends compte que je vais accoucher. Et je me dis, putain, c'est trop bien, je m'accouche, j'ai devant Kaalnote. Peut-être je pourrais lui demander d'être le parrain de ma fille. Non. Et donc du coup, je me souviens très bien du début du film. Et je peux pas du tout. Faudrait que je le revoie, en fait, parce que je sais pas du tout comment ce film finit. En fait, j'avais le nez rivé sur le minuteur de mon téléphone à compter le temps entre mes contractions. Et en sortant, on est parti à la maternité. Et je voyais Alex qui me regardait, qui me disait, ça va, tu veux qu'on y aille ou que... Non, lui, il a pas tout de suite compris pourquoi je regardais tout le temps mon téléphone. Et au bout d'un moment, je me penche doucement vers lui. Je vois qu'il est un peu ému par le film. Je comprends pas du tout pourquoi il est ému, parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai décroché. Je lui dis, comment c'est un peu chaud là, quand même. Mais je me dis, non, on va rester jusqu'à la fin. C'est le dernier film qu'on voit. J'ai eu peur à un moment donné. Je sais que je me suis dit, ah, j'aimerais bien que ça soit pas une fin hyper tragique. Ça me mettrait pas dans un bon mood pour ce qui m'attend là, cette nuit. Et bah, ça, je peux même pas te dire si ça finit bien ou pas. Je crois pas. Je crois que ça finit pas bien du tout. Je crois même que c'est assez sombre et tout ça.
Oh yeah, of course I do, don't I? I want to be like you.
Yeah, going from shit job to shit job, working 14 hours a day, having to put up with everyone else's shit, going from one shit job to another shit job. You're just going to end up a skivvy.
A skivvy? It's your choice to be a skivvy, isn't it? A skivvy doesn't come to you, you go to it. Right?
I'm doing my best, Seb.
Maybe your best isn't good enough, is it?
No, it's not, is it?
No.
I want it better for you. I want it better for Liza. Do you know what? Fuck this, I'm going to bed.
Go on then.
Yeah, fuck off.
Fuck you.
Il y a un truc dans le film qui parle de la filiation, tu vois, tu vois, sur le mec. Alors putain, je vais dire plein de conneries, parce que je te dis, j'ai un souvenir très vaporeux de ce film. Mais il y a un rapport avec son fils, machin, donc il y a un truc où tu sens qu'à un moment, ça marche. Tu sais, en fait, tu vois bien que ces gens, bah, Kaalnote, quoi, il défend tous ses personnages, quoi, tu sais, comme Tchekhov au théâtre, où il les défend tous, quoi. Il n'y a pas un gros con de merde où il n'y a rien à en tirer, quoi. Ils ont tous quelque chose que tu peux. Qui peut te donner envie d'aller. soit le sauver, soit de l'aimer, soit de défendre. Ou... Mais c'est écrit comme ça, je crois. Et du coup, en tout cas dans mon souvenir, ce personnage d'ado, un peu plus qu'ado peut-être, le fils là, c'est une tête de con, mais hyper attachant et tout ça. Et en fait, je me suis dit, putain, je vais, moi, être confrontée, un jour, j'aurai un ado. Je crois que c'était pas si clair que ça, en fait. Parce que, forcément, j'en ai vu d'autres, hein, des films pendant que j'étais... Enfin, non, peut-être pas. Peut-être que c'est le seul film que j'ai vu quand j'étais enceinte. Bon, j'étais encore peut-être un ou deux autres. En tout cas, j'avais pas trop réfléchi. Quand t'es enceinte, tu penses que tu vas avoir un enfant. Mais en fait, tu vas avoir un enfant, un ado, après, ce sera un adulte et tout. Franchement, si tout se passe bien, normalement, à la fin, ton gosse, ce sera pas du tout un gosse, quoi. Et du coup, voilà. Et je me rappelle m'être dit à un moment, putain, ça se trouve, un jour, on va se détester et tout. Ça, je me l'étais déjà dit avant. Mais là, le fait de le voir et tout ça, tu sais, le truc, forcément, il y a une emphase. Pas une emphase, mais une projection, une empathie, tu vois, hyper forte.
Must have your own destiny, Ricky. You up for that?
Yeah.
Ever made by man, I'm going into this mic written by this hand, I'm coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that this your destiny to get the best of me? But I suggest to be quiet, bro. Don't even try it from the east and west of me. Taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it and always moving it, cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf. Born in England, raised in Holland, thought I go for myself. This is stone cold rhyming, no frills, no fluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album, cassette, and 8-track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bow. My name is Younger, yo, I got no how. You know what I'm saying? Like this. I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes, cause I'm that type of man. Cause I make myself at home no matter where I am. I got it rolling like thunder. Making y'all wonder why I'm on top with all the other rappers under. I make no errors, mistakes, or blunders. It's like a wedding. Let no man put asunder. My name is Young and see, I like to rock right well. Cause when I get up on the mic, I just release my spell. It's no hocus pocus. I just get you into focus and swarm all over you just like a horde of locusts. Smooth operator, female persuader. Spot a fly girl and in a week I'm on a date. I got the kind of style for the here and the now, and I can do it cause I got no how. You know what I'm saying? I got no how. Party people, I got no how. Bust it. Cause I know what I'm doing. I treat them like double mint gum and start chewing. I spit them out when the flavor's gone, and I repeat the chewing process till the break of dawn. Cause I'm tough like a bone, sly like Stallone, rocking and clocking on the microphone. Smooth like a mirror and hearts I strike terror. Rhymes like runs and hits with no errors. Cold like a blizzard on the mic, I am the wizard with the funky fresh rhymes coming out of my gizzard. Never sneezing, never coughing, I rock the mic often. Hard as a rock and no sign I'll soften. Making sure I get respect on my mind, rhymes connect. I start to build like a builder from an architect. Moving all around, above and under the grind. You see my face and then you hear my sound coming at ya with the mic in hand. I'm gonna take command just the way I plan, cause I'm a one man band and you are my fan. Don't you understand? I'm like Superman, you're the man of steel. Don't you know the deal? You better be for real. I got sex appeal, this is what I feel, and this here's my vow. And now you know the brother with no how. You know what I'm saying? I got no how, and I'm chilling, never illing. In my mouth I got two feelings. Whatever, I'm on a mic, cold stone hitting over. My name is Young and seen known as the Fly Casanova. Kick it.
Vous écoutez Caméra Subjective, l'émission qui vous parle de cinéma sur Radio G 101.5 FM. Nous venons même tous ensemble d'entendre un morceau tiré de la bande-son du film Sorry We Missed You. Il s'agit de Know How de Young MC. Margot, je me tourne vers toi. Pouvons-nous compter sur toi à présent pour nous en dire plus sur Sorry We Missed You, le film évoqué par Chloé dans son témoignage ?
Quel défi. En tout cas, j'apprécie énormément ton accent british. C'est pour ça que je t'ai mis dans toutes les transitions, il y a le titre du film pour qu'on puisse l'entendre. Donc effectivement, moi je vais essayer avec cette chronique de rebondir sur le témoignage de Chloé, puisque comme elle nous l'a dit, elle garde un souvenir un peu flou du film de Ken Loach, Sorry We Missed You. Je n'ai pas le même accent. Et pour cause, évidemment. Donc je vous propose une chronique qui va faire écho aux propos de Chloé, parce que en spectatrice avisée, elle note dès le début de son témoignage, ça va pas être le truc super fun, mais bon, c'est rarement le cas chez Ken Loach. Alors, faites l'expérience autour de vous. Si vous demandez à un proche ou une proche cinéphile de vous citer le nom d'un ou une cinéaste britannique, il y a fort à parier qu'il pensera en premier lieu à Ken Loach, auteur d'une œuvre d'une trentaine de longs métrages, documentaires comme fiction. On oublie parfois qu'il a fait des documentaires, et donc dont certains de ses films sont très populaires. Ken Loach, c'est aussi l'heureux lauréat de 2 Palmes d'Or au Festival de Cannes, et je tiens à dire qu'ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'ils sont 9 dorénavant. La première, ça a été pour Le Vent se lève en 2006, et ensuite, 10 ans plus tard, en 2016, pour son avant-dernier film qui s'appelait Moi, Daniel Blake. Ken Loach est né en 1936, et si je vous précise ça, c'est que cette date de naissance est comme un cadeau pour le cinéaste engagé qu'il est, puisque c'est à la fois l'avènement du Front populaire en France, qui conduira à des avancées majeures en matière de droit du travail, et le début de la guerre d'Espagne, qui va opposer les républicains à l'armée de Franco. Eh bien, la filmographie de Ken Loach se situe dans la lignée de ces 2 événements anniversaires. Parce qu'il y a d'une part quelques films qui reviennent sur les heures sombres de l'histoire du Royaume-Uni et qui ne craignent pas de s'intéresser à la situation politique hors de ses frontières. Je pense par exemple à Carla Songs, qui est le nom du film qui a été sa première collaboration avec son dorénavant très fidèle scénariste, Paul Laverty. Et c'est un film qui se passe au Nicaragua. Il y a aussi Land and Freedom, Ruth Irish, Le Vent se lève. Et puis, une autre partie, peut-être plus connue de sa filmographie, s'intéresse aux luttes pour les droits des travailleurs et dénonce les ravages des politiques publiques. Alors là, on a Raining Stone, Bread and Roses, It's a Free World, Moi, Daniel Blake et bien d'autres. Les personnages de ces films appartiennent le plus souvent à la classe ouvrière, la fameuse « working class » dont John Lennon chantait les héros. Alors, le dernier film en date, j'espère, de Ken Loach, c'est « Sorry We Missed You », et il appartient à cette deuxième catégorie de films, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux luttes de la classe moyenne. Dans la famille Turner, il y a le père, Ricky, la mère, Abby, qui est auxiliaire de vie pour les personnes âgées, et puis leurs 2 enfants, Sébastien, 16 ans, et sa petite sœur, Liza Jane, 10 ans. Une famille de la classe moyenne plutôt unie, même si rapidement, on comprend que ses membres se voient assez peu. Car justement, au début du film, Ricky candidate pour un nouveau boulot de chauffeur-livreur de colis. On écoute tout de suite un premier extrait du film.
T'as déjà touché le chômage ?
Non. Non. J'ai ma fierté. Non, plutôt crever.
Ça fait plaisir à entendre, Ricky. Henri avait raison, t'es un battant. Bon. Avant de commencer, clarifions quelques détails, si tu veux bien. T'es pas embauché, ici. Tu montes à bord. Nous, on dit que tu viens embarquer. Tu travailles pas pour nous, tu travailles avec nous. Tu conduis pas pour nous, t'es prestataire de service. Il n'y a pas de contrat de travail, pas d'objectif de rendement ou autre. Tu respectes des normes de livraison. T'as pas de salaire, mais des honoraires. C'est clair ?
Oui.
Bien clair.
Oui, c'est clair, ça a l'air chouette, oui.
Pas de pointage, tu te rends disponible. Tu signes avec nous, tu deviens un chauffeur-livreur propriétaire franchisé. Tu prends en main ton destin, ça fait la différence avec les losers, tu deviens un guerrier. T'es partant ?
Oui, j'attends ce genre d'opportunité depuis une éternité.
Oui, alors j'aurais peut-être dû vous préciser que j'ai opté pour la version française, mais on a entendu avec les propos de Chloé, l'accent à couper au couteau des comédiens. Alors, de façon intéressante, le son de cette séquence, celle qu'on vient d'écouter, commence sur la fin des cartons noirs du générique début. donc le son est en off. Et c'est seulement au milieu de l'échange qu'on découvre les protagonistes à l'image. Ricky d'un côté, studieux et convaincu de sa décision, trois sur son siège, et puis de l'autre, Mahoney, le chef d'une entreprise de livraison, enfoncé, décontracté dans son fauteuil, presque goguenard. Tout dans l'attitude de ces deux comédiens dit le rapport de force caché qui se joue au cours de cet entretien. La naïveté de Ricky, son désir de se dépasser dans ce nouveau travail, quand il sera enfin son propre patron, et puis le calme de son interlocuteur qui devine qu'il a ferré un livreur docile. Il faut dire que la crise de 2008 est passée par là, apportant un taux de chômage inédit et quantité de faillites, réduisant à néant les espoirs de toute une partie de la classe ouvrière d'accéder à la propriété. Alors devenir son propre patron, pouvoir travailler plus pour gagner plus, ça fait rêver. On le comprend, le film de Ken Loach s'intéresse à l'évolution du travail dans une société britannique, mais ça aurait pu être française, où l'entrepreneuriat est devenu roi. Cette nouvelle ère a son langage dédié, et on l'a bien entendu dans l'extrait. On parle de embarquer, d'honoraires, de prestations de services, et même de guerriers. Ce qui caractérise ces nouvelles relations professionnelles, c'est aussi la technologie. Ricky aura bientôt en sa possession le boîtier ultra perfectionné confié par l'entreprise pour cadencer ses livraisons, ce qui va s'avérer un outil magique d'asservissement et de contrôle. Justement, ce qui est captivant, c'est la façon dont Ken Loach filme le travail à l'époque où les syndicats s'affaiblissent, faute d'adhérents, puisque tous ces livreurs, encore une fois, sont dorénavant à leur compte. Dans son film de 1936, Les temps modernes, Charlie Chaplin brosse le portrait de Charlot, ouvrier à la chaîne dans une usine qui ressemble furieusement à celle de Ford, que Chaplin, en fait, avait visité avant le tournage. Il est question de cadence infernale, de travail répétitif, de corps qui fatigue, de hiérarchie qui aboie, entre un patron toujours insatisfait et un contremaître servile. Les séquences de travail à la chaîne sont habilement chorégraphiées pour transformer l'espace de l'usine en un décor infiniment burlesque. Eh bien, à bien y regarder, l'entrepôt où Ricky se rend tous les matins pour charger des colis dans son camion ressemble furieusement à cette usine. Les gags et le burlesque en moi. Dans une ambiance sonore étourdissante, entre bruit de chariot et bip des boîtiers qui résonnent, il est à nouveau question de cadence et de délai, et on entend sporadiquement hurler Mahoney, le patron, pour que le rythme s'accélère. Quant à la chorégraphie des livreurs pressés, eh bien elle n'a rien à envier à celle des ouvriers sur la chaîne dans le film de Chaplin. Et si l'on sort de l'entrepôt, l'ambiance n'est malheureusement pas plus décontractée. Sorry We Missed You a été tourné à Newcastle, une cité ouvrière du nord de l'Angleterre. Zone industrielle, centre historique, îlot résidentiel, périphérique bouché. À travers de nombreux plans sur des quartiers de la ville, Ken Loach insiste sur la longueur des trajets que doit faire Ricky au cours de ses livraisons. Ses déplacements épuisants, de même que ceux de sa femme pour visiter des personnes âgées, se font à ses frais, puisqu'il n'est payé qu'au nombre de colis livrés. Le bip du boîtier vient régulièrement lui rappeler d'accélérer pour garder le rythme. Et bientôt, Ricky ne prend même plus la peine de sortir du camion pour uriner. Il faut faire toujours plus de livraisons ou de visites chez les personnes âgées pour que le couple réussisse à gagner suffisamment d'argent pour faire vivre sa famille. Dans ces moments-là, Ken Loach filme la solitude et le repli sur soi de travailleurs indépendants qui n'ont plus de communauté, collègues ou syndicats, pour discuter et se fédérer. Espace démesuré, temps de plus en plus compté, épuisement des corps, solitude, tous les ingrédients sont là pour faire monter la pression. Le stress de Ricky s'accommode mal des bêtises de son fils, et un soir, le ton monte sérieusement entre l'adolescent et son père. Après la dispute, Abby vient faire le point avec son mari. On écoute leur échange avec ce nouvel extrait du film.
T'es pas censé envenimer les choses.
Donc c'est ma faute, c'est ça. Il sèche les cours, il vole dans les magasins, il nous a coûté plus de 500 livres aujourd'hui. C'est qu'un égoïste, Abby.
Ça va plus loin que ça. Ça dépasse le bien ou le mal.
N'importe quoi, il s'agit exactement de ça, du bien et du mal.
Mais j'ai vu ça chez d'autres parents. Tu le sais, les ados, il faut communiquer avec eux. Il faut rester soudés. Je refuse de le perdre.
C'est surtout toi et moi qui devons communiquer. Faut que tu m'épaules, Abby, que tu me soutiennes. Si tu fais l'inverse, on est foutus.
Je te soutiens du mieux que je peux. On est foutus si tu te calmes pas. T'es à bout de nerfs, t'en as pas conscience. T'es crevé.
Si je comprends bien, c'est ma faute.
Si tu peux pas arriver à te contrôler, ce sera ta faute. Il a fallu que je vous sépare, c'est terrible. Je refuse qu'on en arrive à ça.
Là encore, je me rappelle ce que disait Chloé. Ken Loach défend ses personnages. Ils sont tous attachants. Eh bien, c'est vrai. Tous les comédiens du film sont exceptionnels, bien que la plupart ne soient pas des habitués des tournages de cinéma. Et effectivement, difficile de ne pas compatir devant les difficultés que rencontrent les membres de cette famille, emportés par une tension qui leur est au départ extérieure. Car la pertinence de l'analyse de Ken Loach, c'est de montrer comment la violence dans les relations de travail peut avoir un impact bouleversant sur les relations intimes, à l'intérieur d'un foyer, entre parents et enfants, ou au sein d'un couple. Dans le film, cette violence est montrée comme un flux, plutôt qu'un état de fait. Un flux qui circule entre séquences dans l'entrepôt et séquences dans la maison des Turner, construite en écho. La caméra de Ken Loach, posée à hauteur des yeux, observe avec finesse ces fractures familiales. Ces moments sont pour moi les plus bouleversants et aussi les plus justes du film. Alors, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir ? Eh bien, heureusement non. D'abord, comme le soulignait Chloé, il y a les enfants, Sebastian et Liza Jane. Eux apparaissent très lucides sur la situation de leurs parents. Avec véhémence pour Sébastien, avec force larmes pour Liza Jane, ils tentent de manifester leur réprobation, de dresser des barrières de tout type pour ralentir le rythme infernal d'Abby et Ricky. Comme le clame l'adolescent, nul doute que leur rapport au travail ne sera pas le même, et c'est probablement une chance pour eux. Et puis, l'autre espoir du film, enfin, eh bien c'est vous, c'est moi. C'est nous, spectateurs. Ken Loach nous invite, à travers un film aussi épuré que poignant, à être des consommateurs et des électeurs vigilants. Quel système, quelle société voulons-nous pour aujourd'hui et surtout pour demain ?
Sorry, we missed you, de Ken Loach, à voir ou à revoir, ou à découvrir, en DVD, Blu-ray ou VOD.
Alors, mesdames, ceci étant dit, avez-vous ce soir des films à nous conseiller ?
Alors moi, j'ai noté une séance qui aura lieu demain soir à la médiathèque de Beaucouzé à 20h30 dans le cadre du mois du film documentaire. J'ai noté ce film car j'ai déjà vu un précédent du réalisateur Mathias Théry. Il s'agit du film « La sociologue et l'ourson » de Mathias Théry, donc, et Étienne Chailloux. Alors, le synopsis, je vous le donne. De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet de loi Mariage pour tous. Pendant cette période, la sociologue Irène Thierry raconte à son fils les enjeux du débat. De ce récit naît un cinéma d'ours en peluche, un film que nous fait redécouvrir, un film qui nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement, la famille. Alors, je me souviens de la sortie de ce film-là, j'avais pas pu le voir, donc je me disais que là, c'était l'occasion demain soir d'aller le voir. Je me souviens d'un film de Mathias Théry qui s'appelait « Cherche toujours », un documentaire également, qui abordait la question des chercheurs du monde de la recherche. Que j'avais beaucoup aimé, qui mêlait du coup images réelles dans ce film documentaire, hein, toujours, et cinéma d'animation. Notons par ailleurs qu'il a réalisé plus dernièrement, plus proche de nous en 2021, Petite danseuse. Voilà pour ma suggestion du jour.
Merci Claire. Et toi Margot, je sens que tu as un film à partager.
Alors moi, je n'ai pas un, mais deux films à suggérer, en fait un petit peu en écho avec les thématiques qu'a abordé Cécile en début d'émission, puisque tu nous parlais de la comédienne et réalisatrice Judith Davis. Je ne sais pas si on dit Davis ou Davis, peut-être Davis. Davis,
oui.
Davis, elle est française. Et donc, pour rester un petit peu dans cette ambiance de parler de ce que c'est qu'être comédien, comédienne, qu'est-ce que c'est qu'un casting, qu'est-ce que c'est que jouer dans un film, de jouer au théâtre, en fait, il me semble qu'il y a deux films qui viennent de sortir ou qui sortent prochainement sur grand écran. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est le film de Valeria Bruni-Tedeschi qui est sorti la semaine dernière, Les Amandiers, qui était présenté au Festival de Cannes en compétition officielle. Et en fait, c'est un film qui revient sur toute une génération de jeunes comédiens qui a été formé par Patrice Chéreau, lorsqu'il dirigeait le théâtre des Amandiers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Valeria Bruni-Tedeschi s'est appuyée pour écrire le scénario sur tout un tas de témoignages de ses anciens collègues, parce que Valeria Bruni-Tedeschi, elle, a fait partie de cette génération de jeunes comédiens formés par Chéreau, mais il y avait aussi Pascal Grégory, Agnès Jaoui, Noémie Lvovsky, etc. Donc tout un tas de comédiens et comédiennes qui dorénavant sont extrêmement connus et extrêmement actifs. Et donc à partir de ces témoignages, de ces souvenirs, elle a écrit ce scénario pour essayer de transmettre l'énergie qu'il y avait dans cette école et la nouveauté que c'était, en tout cas l'envie à travers le jeu de transmettre une certaine vérité du jeu, du quotidien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait elle a choisi des jeunes comédiens qui sont actuellement pas très connus, qui probablement se retrouveront pour beaucoup dans la sélection des Césars, des meilleurs jeunes acteurs et jeunes actrices, et qu'en tout cas, que probablement dans 5 ou 6 ans, on connaîtra par cœur, un peu comme on connaît par cœur Valeria, Noémie, Agnès, etc. Je précise aussi que, de façon extraordinaire, en fait, celui qui incarne, qui a osé incarner Patrice Chéreau, c'est Louis Garrel qui propose du coup une figure de ce metteur en scène et directeur d'acteur absolument passionnante. Alors le deuxième film, un petit peu en écho, dont j'avais envie de vous parler, c'est un film qui sort cette fois-ci la semaine prochaine, ou dans 15 jours, le 7 décembre, c'est dans 15 jours, pardon, et qui s'appelle Les Pires. C'est un film qui a été réalisé par Lisa Coca et Romane Guéret, qui sont d'habitude deux directrices de casting. Donc c'est assez intéressant de voir quel parti pris pour quel parti pris elles ont opté dans la réalisation de ce film. Et si vous avez, peut-être que vous connaissez un court-métrage qui les a fait connaître, qui s'appelle Chasse Royale, qui a été présenté à Premier Plan il y a quelques années. Donc si vous êtes des assidus de Premier Plan, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, Les Pires, c'est l'histoire d'un tournage qui va se dérouler en banlieue, on pourrait dire, et avec toutes les questions que ça pose, puisque le réalisateur fait le choix de comédiens non professionnels. Donc le film s'ouvre sur une séquence absolument fabuleuse de casting entre un directeur très, très classique et puis tout un tas de jeunes qui sont plutôt, on sent plutôt des défaillants du système scolaire, donc on voit vraiment un écart. C'est assez chouette. Et puis après, le film pose des questions sur qu'est-ce que c'est que tourner quelque part, qu'est-ce que ça change le cinéma dans une ville, dans une vie aussi. Donc c'est vraiment un film très fort, très énergique, que je vous recommande absolument. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je pense qu'on peut écouter les premières mesures de notre générique.
Caméra subjective, c'est fini pour cette semaine. L'équipe se retire pour préparer la prochaine émission. Nous vous réservons plein de surprises pour cette spéciale fête de fin d'année. Rendez-vous à l'antenne mercredi dans 15 jours. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ou les précédentes, nous contacter, nous envoyer des mots doux ou un billet d'humeur, rendez-vous sur le site de Radio G à la page de l'émission www.radio-g.fr. Bonne soirée et bon film. Au plaisir de vous retrouver mercredi dans 2 semaines.
www.radio-g.fr